Bonsoir. Des milliers de personnes ont marché samedi à Kinshasa à l'appel de laïcs catholiques et protestants pour exiger notamment la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Certaines forces politiques telles que le Front commun pour le Congo et la coalition Lamouka ainsi que d'autres partis politiques de l'opposition ont aussi participé à cette marche. En plus de la dépolitisation de la CENI, les manifestants scandaient des slogans en faveur de l'éducation des enfants ou du bien-être social. Ils ont aussi exigé la suppression de la taxe RAM. Dans leur mémorandum, les laïcs catholiques et protestants plaident pour que l'intérêt supérieur de la nation soit privilégié et que la mise en place irrégulière et illégale du bureau de la CENI soit annulée, faute de quoi d'autres manifestations de grande envergure seront organisées dans les prochains jours. Et selon Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, cette manifestation avait pour but de dénoncer la dictature instaurée par le président Félix Tshisekedi. Que pensez-vous de l'organisation de cette marche et quelle évaluation peut-on en faire? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 15 novembre 2021. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jeff Pambi, secrétaire national du ministère des laïcs protestants. Il est coordonnateur de la dynamique des forces sociales et politiques de la nation. Jeff Pambi, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Peter Kazadi, député provincial élu de Moamba dans la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Maître Peter Kazadi, bonsoir.
Bonsoir Elie, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et le professeur Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Vous êtes très nombreux, comme d'habitude, vous auditeurs des radios Okapi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Forlan Lupanchi Bin, depuis Mbujimayi au Kassai Oriental. Je pense que la tenue de la dite marche est un indice sérieux que le président Félix Tshisekedi est un démocrate et c'est un pas de plus pour notre démocratie longtemps assassinée par l'ancien régime. Dieu, tout est grâce, Kabamba, depuis Kabinda, dans la province de Lomami. À mon avis, tous ceux qui ont manifesté avaient raison de le faire, car tous les problèmes évoqués sont fondés. À Kinshasa, vous nous suivez sous la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
En RDC, opposants, laïcs, activistes, militants catholiques et protestants sont descendus dans les rues de la capitale Kinshasa samedi dernier pour protester contre la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi les revendications sociales. Cette marche a été convoquée par le Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, et le ministère laïc de protestants, Milapro. Donna Madimba nous en dit plus sur cette marche.
Organisatrice de la marche de samedi dernier en République démocratique du Congo, les forces politiques et sociales dont le FCC, la coalition Lamouka et les laïcs catholiques et protestants semblent pas encore tranchés sur les objectifs définitifs de leurs actions. Dans leur déclaration au terme de la marche de samedi dernier, relayée notamment par 7 sur 7.cd, les forces politiques et sociales ont à la fois réclamé l'annulation de l'investiture de l'équipe Denis Kadima à la tête de la CENI, l'éradication de l'insécurité à l'est du pays, la résolution des difficultés de l'application de la gratuité de l'enseignement de base, mais aussi l'annulation du RAM. Ces forces politiques et sociales menacent d'organiser d'autres manifestations de grande envergure si la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante n'est pas annulée, la qualifiant d'irrégulière. La marche de samedi a, selon la police, mobilisé environ 4000 personnes, mais 3 absences de taille ont été observées. Il s'agit de Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou et le mouvement citoyen Lucha. L'absence des deux premiers n'a pas été clairement expliquée, mais pour la Lucha, ce mouvement, selon certaines sources médiatiques, hésite encore à être vu aux côtés des membres du FCC notamment, considéré par lui comme auteur du recul que le pays a enregistré pendant presque 20 ans de son règne en RDC.
Merci Donna Madimba pour tous ces éléments. Jeff Pambi, je rappelle que vous êtes secrétaire national du ministère des laïcs protestants, Milapro. Vous êtes coordonnateur de la dynamique des forces sociales et politiques de la nation. Je l'ai dit, le samedi dernier, des milliers de personnes ont marché à Kinshasa à l'appel justement des laïcs catholiques et protestants pour notamment demander la dépolitisation de la CENI. Les manifestants scandaient des slogans en faveur de l'éducation des enfants et du bien-être social. Jeff Pambi, quelle évaluation vous faites d'abord de la marche que vous avez organisée?
Merci beaucoup de la question. Et d'entrée des jeux, je commencerai par corriger une affirmation assez grave et dangereuse du reporter qui a parlé de 4000 environ, 4000.
Selon la police, ça ne vient pas de lui, ce sont les chiffres de la police.
Non, bien sûr, je ne l'accuse pas, mais je voudrais corriger, je pense que tout le monde a suivi, et d'ici comme d'ailleurs, et il y a eu, selon certaines estimations, qu'on a dépassé le million de participants, mais qu'à cela ne tienne, nous en venons à l'essentiel. L'essentiel est que, au moins, le peuple congolais a su démontrer que lorsque ses droits sont bafoués, lorsque ses intérêts sont mis en difficulté, il peut se lever et parler et se prononcer et s'adresser à qui des droits, notamment ceux qui nous gouvernent. Et nous sommes très satisfaits de cette marche. Vous êtes sans ignorer que d'entrée des jeux, on a eu des problèmes avec la première date qui était celle du 6 novembre. Et du coup, lorsque nous avons annoncé cette date, d'autres forces contraires, disons à vue contraire, ont annoncé elles aussi une marche à la même date et dans le même espace d'expression. Et nous avons considéré que puisque nous ne voulons pas mettre la vie de nos concitoyens en danger, nous avons reculé et on a changé des dates. Bon, la même tentative a failli avoir lieu encore avec la date du 13, mais je crois que les gens se sont ravisés et ça n'a pas été le cas. Nous sommes, je disais, très flattés par cette mobilisation, cette prise de conscience du peuple congolais. Je vous signale que cette marche ne s'est pas seulement tenue à Kinshasa, elle s'est tenue sur toute l'étendue de la République. Dans les tout prochaines heures, sinon jours, nous allons donner un état général, global de cette marche et vous verrez que pas une seule province de la République n'a été épargnée par ce mouvement spontané de masse pour réclamer tout ce que nous avons évoqué. Je pense que nous y reviendrons en long et en large.
Alors, Jeff Pambi, pensez-vous que vous avez atteint l'objectif en organisant cette marche?
Non, nous n'avons pas atteint l'objectif parce qu'il faut ici définir l'objectif. L'objectif est défini dans le mémo et qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous demandons par cette prise spontanée de conscience du peuple congolais. Le peuple congolais ne vise pas l'organisation des marches. On n'a pas besoin d'organisation des marches. On n'a pas besoin de manifestations. On a besoin que les conditions de vie des citoyens congolais puissent s'améliorer. On a besoin que la paix revienne dans notre pays globalement et spécifiquement dans les parties très à risque, notamment la partie est du pays. On a besoin que l'escroquerie, comme on l'appelle, l'escroquerie d'État avec cette taxe qu'on ne sait même pas spécifier, qu'on appelle les taxes RAM, puisse être supprimée. Mais au-delà de tout, nous, on a besoin que cet acte de nomination, disons que les services ou du moins les départements ou les institutions appropriées ont induit le chef de l'État, notre président de la République, en erreur, en lui faisant signer un acte de nomination d'une équipe de manière irrégulière et illégale. Donc nous ne nous sentirons heureux que lorsque ces objectifs-là seront atteints. Mais
en attendant, est-ce que vous allez continuer à organiser des marches?
Bon, comme je viens de le dire, madame, c'est-à-dire que l'organisation de marches n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'atteinte de ces objectifs. Si aujourd'hui le chef de l'État, je présume qu'il nous suit, prend la chose en main et décide et dit que non, voilà, j'ai entendu l'appel de mon peuple, le peuple qui l'a placé là où il est et qu'il prend des options qui s'imposent par rapport à cela, pourquoi doit-on organiser encore des marches? Donc la marche n'est pas une fin en soi. La fin en soi, je viens de le dire, c'est l'atteinte des objectifs, des desiderata de notre peuple sur toute l'étendue de la République et à l'extérieur du pays.
Vous pensez que toutes ces revendications trouveront des réponses? Je prends l'exemple de la CENI. Le dossier est déjà clos. Le chef a nommé la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Vous pensez qu'en manifestant, qu'en organisant des marches, même si ce n'est pas une fin en soi, comme vous l'avez dit, le chef de l'État pourrait revenir sur sa décision? C'est possible,
absolument.
Pensez-vous?
Absolument, madame. Le chef de l'État est chef de l'État parce qu'il a un peuple derrière lui, il a un peuple qui l'a placé là où il est, et si il entend que le peuple qui l'a placé là où il est a des demandes aussi importantes, et que si ces demandes-là, comme c'est le cas ici, sont clairement établies et clairement présentées, je pense que le chef de l'État, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas, au contraire, c'est une grandeur d'âme. C'est ça un chef, c'est ça un leader. C'est lui qui écoute sa population, son peuple. Et nous sommes persuadés que lorsque tous les éléments d'appréciation parviendront sur la table du président, lui faisant voir clairement que cet acte que lui a posé de manière responsable est entaché des irrégularités criantes, notamment que le processus était irrégulier et illégal. Je peux le démontrer ici si vous m'en donnez le temps. Et je pense que le chef de l'État n'aura rien d'autre que à revenir sur sa décision, ou du moins sur son acte, et faire son devoir, n'est-ce pas, son devoir de défendre son peuple.
Jeff
Donc,
Pambi,
nous n'avons aucun doute là-dessus.
Jeff Pambi, lors de cette marche, on vous a vu aux côtés des militants du IFCC, plateforme politique que vous avez combattue il y a quelque temps. Comment vous expliquez cela?
Non, et je pense que nous devons faire la part des choses ici. Nous n'avons pas vu de militants du FCC et consorts. Nous avons vu des citoyens congolais qui se sont levés pour réclamer leurs droits, pour protester contre quelque chose. Vous souviendrez que cette dynamique a été créée partant d'un appel que les laïcs protestants à travers le Milapro et catholiques à travers le CALCC ont lancé à toutes les forces sociales et politiques qui voient la chose comme nous, qui voient les injustices, qui voient la misère de notre peuple, qui voient l'escroquerie d'État sur notre peuple et qui voient les irrégularités. À un moment dans la vie, il faut apprendre à s'arrêter, faire un examen de tout ce qui s'est passé, d'où nous venons, quelles sont les failles qu'on a connues et où est-ce que nous allons jeter de nouvelles bases pour améliorer nos conditions. Mais lorsque on doit avancer comme des aveugles, et nous pensons qu'on va droit vers le mur. Nous avons lancé l'appel, tous ceux qui sont venus, vous vous souviendrez que les laïcs catholiques comme protestants sont faits de différentes catégories de personnes. Et entre autres, il y a des acteurs politiques, il y a des scientifiques, il y a des élèves, des étudiants et consorts. Lorsque nous tenons nos réunions, maintenant que le président en exercice s'appelle Félix Tshisekedi, je vous dis que c'est un des laïcs, des hautes, comme nous les appelons, des hautes personnalités politiques. Dès qu'il est entré en exercice, nous l'avons encouragé, nous l'avons félicité et nous l'avons signifié, n'est-ce pas, son rôle de haute personnalité protestante. C'est-à-dire, si Félix Tshisekedi aujourd'hui décide de poser un acte par rapport aux laïcs protestants, à leur demande ou consort, il ne faut pas considérer Félix Tshisekedi comme un membre ou, je ne sais pas moi, prenons parce qu'il a un parti politique d'origine, ce n'est pas comme un membre de l'UDPS qu'il viendrait, mais il viendrait comme haute personnalité politique.
Merci.
Monsieur Chadari, je présume qu'il est catholique, il est laïc catholique. Lorsque les laïcs catholiques, ensemble et en synergie avec les laïcs protestants, lancent un appel, tout le monde qui se sent concerné doit se lever sans tenir compte de ses couleurs politiques ou de sa classe sociale.
Merci.
Voilà ce que nous avons vu c'est samedi 13 novembre 2021.
Maître Peter Kazadi, député provincial, élu de Moamba dans la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Maître Peter Kazadi, quelle lecture vous faites de l'organisation de cette marche?
D'abord, il faut noter que c'est une bonne leçon de la démocratie que les organisateurs devaient d'abord applaudir, parce que hier nous avons marché côte à côte avec l'Église catholique pendant que l'Église protestante convolait des beaux jours avec l'ancien pouvoir, et nous avons été toujours réprimés et dans les sangs. Il y avait des morts. Aujourd'hui, que l'Église protestante vient de se ressaisir, ce qui est une bonne chose. Elle décide de s'inscrire dans les combats citoyens et qui est en face d'elle un pouvoir démocratique qui laisse les espaces de liberté tant aux membres de l'Église qu'aux organisations politiques. Je pense que l'Église protestante devait féliciter le pouvoir en place. Ceci pour dire que, puisque j'ai noté que les objectifs des marcheurs étaient parfois divisés et opposés, contradictoires. Pour les uns, on marche contre la dictature de Félix Tshisekedi. Pour les autres, nous cherchons à ce que Kabila revienne au pouvoir. Et pour d'autres encore, il faut chasser les pouvoirs pour que nous puissions prendre les sièges. Donc, les messages au cours de cette marche n'étaient pas clairs.
Il y a eu quand même un mémorandum qui a été lu à la fin de la marche, et les mémos reprend toutes les revendications.
Les messages ont été passés diversement. Il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont parlé. Chacun a donné ce qu'il veut. On parle tantôt des rames. Donc on ramasse tout. Et ce que les organisateurs, et principalement les deux branches des deux églises, ce qu'ils devaient dire à la population, c'était que cette misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas l'effet de Félix Tshisekedi. Certains membres de l'Église, notamment l'Église protestante, ont participé au misèlement de la population dans ces pays. Et c'est cette misère-là qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils devaient commencer d'abord par se repentir pour leur passé noir, macabre, aux côtés des anciens pouvoirs dictatoriaux dans ces pays. Ils devaient commencer par là avant de montrer qu'aujourd'hui, ils se sont élevés et qu'ils veulent maintenant travailler pour le bien-être social. Pendant que nous, on se battait là et était de l'autre côté.
On a vu aussi l'Église protestante se lever contre le régime de Joseph Kabila, maître Peter Kazadi.
En tout cas, peut-être que ça date de longtemps, mais en tout cas, toutes les années de Kabila, nous, on avait toujours vu l'Église protestante du Congo aux côtés du pouvoir qui les soutenait à travers les représentants légaux. Donc ça, c'est un fait, et ces laïcs-là n'avaient jamais osé la voix pour dire que le comportement de leur leadership allait dans le sens contraire des intérêts nationaux. Donc, comme je vous disais, ils marchent contre la dictature, mais un dictateur qui leur offre des espaces, ils s'expriment, ils sont là. Et aussi j'ai entendu une des revendications qui est d'ailleurs la principale, c'est qu'il faut dépolitiser la CENI. Et ils ne nous disent pas comment est-ce qu'on peut dépolitiser cette CENI. Ces deux églises aujourd'hui opposées au processus du choix du candidat président de la CENI avaient aussi des candidats. D'abord, ce qui nous unit ici en commun, c'est la loi. Cette loi a été acceptée par toutes les tendances politiques et même sociales, ce qui a fait qu'ils avaient accepté d'organiser des séances de recrutement des candidatures, et chacun d'elles a même proposé un candidat, et dans d'autres composantes aussi, ça a été accepté ainsi.
Alors, on ne va pas revenir sur la procédure, puisqu'on
a la politisation, ça veut dire que c'est la loi elle-même qui a politisé la CENI et qu'elle avait cautionné la loi. Ils ne nous disent pas à quel moment. C'est tout simplement parce que leurs candidats ne sont pas passés.
Vous estimez donc
tout devient politique.
Vous estimez donc que leur démarche n'aura pas d'issue favorable, le fait de demander au chef de l'État de revenir sur sa décision de nomination de la nouvelle équipe.
Je veux tout d'abord faire remarquer que s'il y a des dictateurs, ce sont ces deux églises, en tout cas certains membres de ces églises qui veulent imposer leur volonté à toute une nation. Donc à la base, il y a une loi qui a créé organiser la CENI. C'est là le problème. Et cette loi étant acceptée, maintenant les modalités de choix, lorsque elles ne se sont pas fait entendre, puisque les autres composantes n'ont pas voulu de leur démarche, et tout devient politique, il faut qu'ils nous expliquent quand est-ce que la CENI est devenue politique. Si on avait mis leur candidat à eux, est-ce qu'ils allaient dire que la CENI est politique ou pas? C'est tout simplement parce que leur candidat n'est pas passé, ça devient politique. Il faut qu'on nous explique.
Autre problème soulevé par ces marcheurs, on a suivi Jeff Pambi qui a parlé de l'escroquerie d'État avec la taxe RAM. La population veut qu'on supprime cette taxe, puisque déjà ceux qui l'ont instauré ont du mal à expliquer à la population. C'est quoi exactement, à quoi ça sert?
Ça, c'est une revendication normale, une revendication citoyenne. Il s'agit d'un impôt qu'on prélève. Les gens doivent comprendre les objectifs de cet impôt, pourquoi il est récolté, où est-ce qu'on l'amène. Tout ça, ce sont des questions réelles qui méritent d'être posées. Et ça, n'importe quel citoyen peut bien être en droit de les revendiquer. Et moi, pour ma part, j'ai un point de vue par rapport à la taxe RAM. D'abord, il faut que cette taxe, si elle l'est, qu'elle soit transparente, que les gens sachent où est-ce qu'elle va, ça sert à quoi, pourquoi elle est récoltée. Ça, c'est tout à fait normal. Et dans mes petits efforts, j'essaye de conseiller aux dirigeants, aux responsables, de fournir suffisamment d'explications et essayer de faire admettre, ou en tout cas, si on ne trouve pas des explications claires, qu'on retire les rames. Voilà.
Alors, on peut dire que cette marche a eu sa raison d'être, Maître Peter Kazadi, parce qu'il y a des problèmes fondés.
Vous savez, Kelly, la marche est une marche d'abord politique, organisée par des confessions religieuses, avec des revendications non claires. Chacun y va en sa manière. Et aussi, il faut que je dise que cette marche, en réalité, c'est une guerre des religions. Ce sont des religieux qui se battent dans la rue, mais acquisant un pouvoir qui n'a rien fait dans tout ce qui leur arrive aujourd'hui. C'était entre eux, ils n'ont pas pu s'entendre, une majorité s'est dégagée, le président de la République a posé des actes qui lui reviennent constitutionnellement, et il crie maintenant, il cherche à politiser, puisque ce sont eux qui cherchent à politiser la démarche. Et aussi, il y a quelque chose que les gens doivent savoir. Au-delà de tout, il y a des visées lucratives. Vous savez, lors des élections passées en 2018, l'Église catholique avait bénéficié de 12 millions de dollars de la communauté internationale. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent dire à ces peuples pour lesquels ils se battent l'utilisation de cette somme d'argent?
Malheureusement, on n'a pas un représentant de l'Église catholique dans cette émission.
Ils sont aujourd'hui ensemble avec l'Église du Christ au Congo dans la même démarche. Ils sont en tournée internationale à la récolte de l'argent pour. Ils sont en train de promettre.
Ça n'engage que vous.
Avec cet argent, ils vont assurer la transparence des élections.
Ça n'engage que vous, c'est que vous dites. Vous voulez dire que aujourd'hui, depuis que vous êtes aux affaires, les conditions de vie de la population se sont améliorées?
Oui. Il y a de quoi dire ça.
Qu'est-ce qui le prouve? Puisque on a toujours des grognes dans les entreprises publiques, on a des grèves ça et là. On voit comment la population se plaint sur les prix des denrées sur les marchés. Qu'est-ce qui vous fait dire que les conditions de vie se sont améliorées?
Dire globalement que les conditions de vie, il y a des améliorations d'abord dans les traitements des salariés, ceux qui touchent leur salaire plus ou moins régulièrement. Il y a aussi des améliorations mais qui ne se font pas sentir. Celui qui hier touchait 50 000 francs se retrouve aujourd'hui avec plus de 100 000, c'est un exemple que je donne. Cela n'est pas suffisant pour la vie, mais au moins il y a cette volonté. Nous avons trouvé le pays dans un état de délabrement total. On ne peut pas en un clin d'œil changer le vécu de ces peuples. Comme ça, il y a des procédures budgétaires qu'il faut mettre en place. Il faut assainir les finances, la gestion pour que l'argent rentre, afin que cet argent soit redistribué à l'ensemble du peuple. C'est ainsi que, d'entrée du jeu, je vous ai dit que nous sommes là en face d'une misère que nous avons héritée et que nous sommes en train de régler.
Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette même université. Professeur Mouaka, votre lecture de l'organisation de la marche convoquée par le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo et le ministère laïque des protestants.
Oui, je voudrais saluer l'expression démocratique comme l'honorable venait de le faire et saluer le fait que le Milapro et la CALCC ont eu le temps de pouvoir organiser une marche et saluer aussi le souci du gouvernement de respecter pratiquement les droits humains. Et je salue toutes les deux parties, mais je voudrais quand même dire que c'est pas aussi intéressant de voir une répétition de l'histoire à chaque fois qu'il s'agit de constituer le bureau de la CENI. Ce qu'on a observé il y a 2-3 fois, et ça s'observe encore aujourd'hui, alors que je crois que l'UDPS a été parmi les partis qui ont beaucoup milité pour que les choses changent. Ça même était le grand slogan au niveau de l'UDPS, le changement. Étienne Tshisekedi s'est battu pour le changement. Et donc, on aurait bien voulu voir autre chose et pas profiter de la division qui s'observe chaque fois entre les chefs religieux pour pouvoir effectuer une espèce de passage à force. Je voudrais en même temps dire que qu'une marche, elle est bonne, mais l'Église ne devrait pas, que ce soit l'Église protestante ou catholique, ne devrait pas être une blanchisserie où on voit non seulement certains politiciens qui sont peu recommandables, qui se retrouvent peut-être aux côtés des chefs religieux. On me dira que l'Église, c'est pratiquement celle qui est au centre du village, c'est vrai. Mais je crois que certaines images peuvent ne pas crédibiliser l'action d'une église.
Mais ces personnes sont d'abord laïques, professeur Arsène Mouaka. Comme l'a dit Jeff Pambi, ils sont d'abord laïques. Ils appartiennent à une église. Est-ce qu'on va leur interdire de marcher parce qu'ils ont travaillé dans le régime passé?
Oui, je ne dirais pas jusqu'à dire on doit pouvoir les empêcher, mais je crois que l'Église a le rôle de la formation. Je suis moi-même laïc chrétien, et donc je peux participer d'une manière ou d'une autre, mais je crois que l'Église a la responsabilité, non seulement à un certain moment, de dire vous ne pouvez pas, puisque votre conduite ne traduit pas la marche des chrétiens. Et donc l'Église a des procédures, soit de mettre certains sous discipline, soit carrément d'excommunier certains. Je pense qu'on a vu l'UDPS se battre à côté de l'Église catholique, à côté de l'Église protestante. Ce n'est pas l'UDPS qui doit faire le contraire, et c'est pourquoi elle s'est battue de la même manière, que ce soit les FCC, que ce soit toutes les autres forces politiques. Je crois qu'on doit apprendre à se censurer pour dire celui qui est en train de faire le jeu aujourd'hui fait la même chose que nous avons eu à faire, et qu'on doit avoir honte parfois de pouvoir dire nous voulons nous situer dans l'autre côté. Et c'est dans ces conditions-là que moi j'ai dit l'Église devient une blanchisserie où à chaque fois c'est une machine pour blanchir des individus qui marchent contrairement à leur propre morale, contrairement à leur propre croyance. Donc il en est même d'autres confessions religieuses qui se servent parfois des catholiques et des protestants comme des outils de blanchisserie, puisque vous verrez certaines églises pratiquement ou certaines confessions religieuses qui n'ont pas autant d'envergure, hein, on compte juste le nombre de chefs religieux, on dit bon la majorité s'est dégagée, ainsi de suite, alors que tout le monde connaît la réalité des confessions religieuses. Donc moi je semble croire que les protestants, les catholiques doivent éviter d'être une blanchisserie à la fois pour les politiciens mais aussi pour certains chefs religieux qui sont véreux et peu recommandables.
Les problèmes évoqués par ces deux structures sont-ils fondés selon vous, professeur Arsène Mouaka?
Tous les problèmes posés sont fondés. Tous les problèmes sont fondés, que ce soit les problèmes de désignation du président de la CENI, que ce soit les problèmes liés à la vie sociale de la population, le RAM et tout le reste, c'est fondé. Mais ici, tout le problème, c'est de dire, bon, est-ce qu'on n'est pas aussi dans l'amalgame? À un certain moment, il faut savoir poser le problème. On ne peut pas poser tous les problèmes à la fois. Je pense qu'il va falloir se concentrer sur les problèmes qu'on considère comme prioritaires. J'ai comme l'impression que les organisateurs ont convoqué la marche contre le bureau de la CENI. Bon, maintenant, c'est vrai que le pays a trop de revendications. La vie sociale est en train de se traduire devant la population qui a accordé au chef de l'État un moment où on essaie un peu de voir le premier pas que le chef de l'État va poser, mais chaque jour qui passe, les problèmes s'accumulent. Je pense que fonder, c'est fonder, mais est-ce que ça devait se poser comme ça, dans une sorte d'amalgame? Je pense que là aussi, il y a quand même un souci.
Et selon vous, ça devrait se poser comment?
Si c'est la CENI, on devait se concentrer sur la CENI. Et s'il y a d'autres revendications, il y a autant d'occasions. J'espère que l'UDPS ne va pas se dédire, puisque l'UDPS dit « nous avons ouvert le champ démocratique, celui qui croit qu'il peut marcher, il n'a qu'à lire la loi et appliquer ce que la loi lui demande. Nous espérons que l'UDPS continuera et l'UDPS et l'Union Sacrée continueront à respecter la loi et l'expression démocratique sera réelle. Au moins ça, on pourra mettre à son actif.
Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler sur notre sondage. Les auditeurs veulent donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. Jeff Pambi, on va prendre pour vous cette réaction. C'est Josué Assani qui est en ligne. Voilà, on prend Josué Assani.
Josué Assani, je suis dans la ville de Bukavu. Je ne salue pas l'organisation de cette marche, bien que constitue constitutionnellement garantie. C'est inopportune étant donné qu'ils sont en train de revendiquer une chose étant déjà close. Elle est sans intérêt. Je cite par exemple la revendication en rapport avec la mise en place de la CENI, chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Cette marche pourrait être organisée avant la mise en place de la CENI. Mais courir derrière les événements, cela leur donne en fait moins de chances pour obtenir un gain de cause et c'est vouloir troubler l'ordre public. Personnellement, j'estime qu'il est important et bien, qu'on ne puisse pas déstabiliser les institutions en place afin de ne pas créer les alibis, de ne pas organiser les élections dans un délai légal. Plus la question de la CENI reste à l'ordre du jour, plus on donne l'occasion de retarder les élections. En RDC, eh bien, tout le monde peut bien diriger s'il n'est pas encore au pouvoir. Tout le monde connaît ce que c'est l'intérêt supérieur de la nation quand il n'est pas encore au pouvoir. Mais une fois être au pouvoir, on ne se contente qu'à manger la galette des rois.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne. Jeff Pambi, vous avez suivi cet auditeur qui nous a appelé depuis Bukavu, au Sud Kivu. Que pensez-vous de son point de vue?
Je salue le point de vue de mon frère à partir de Bukavu. Je pense qu'il en a le droit, comme toute autre personne, mais je voudrais spécifier une chose, peut-être pour éclairer sa lanterne, en disant que cette marche n'est pas un peu comme tombée du ciel. C'est-à-dire que c'est la conséquence d'un processus que nous avons entamé. Depuis que ce processus de mise en place du bureau de la CENI a commencé, nous avons été totalement proactifs. Nous avons saisi le bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'institution en charge de l'orientation pour ce fait-là. Et à cela, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et garant de l'intégrité du territoire, avait toujours été tenu en copie. Bon, c'est-à-dire quoi? Dès le début, nous avons fait voir, et je peux même d'ailleurs dire à mon frère qu'il y a encore à l'heure qu'il est, certainement une procédure en cours au niveau du Conseil d'État. Nous ne sommes pas restés inactifs dès que nous avons constaté que les choses allaient mal. Et vous vous souviendrez que quand le président de l'Assemblée nationale avait donné un ultimatum de 72 heures aux pères de confession religieuse, nous leur avons conseillé de ne pas se mettre à l'œuvre, mais d'attendre plutôt la réaction, d'abord l'arrêt éventuel du Conseil d'État qui avait été saisi sur la question même qui créait le blocage, c'est-à-dire l'interprétation de l'article 10 et 12 de la loi organique sur la CENI.
On retient qu'il n'est pas tard.
Non, il n'est pas tard. C'est-à-dire, comme je disais, la marche n'est que une étape d'un processus. Nous avons commencé par accompagner le processus en faisant voir à qui de droit, notamment le président de l'Assemblée nationale, qu'on était dans l'erreur. Parce qu'il est connu que lorsque les prémices sont mal établies, les conclusions les seront fortement, ou très souvent. Alors là, le départ était mauvais. Si vous permettez que je vous les justifie...
On n'a pas beaucoup de temps, Jeff Pambi, il faut vous résumer.
Mais je pense, s'il vous plaît, si vous permettez, c'est là, surtout la clé de la chose. Parce que je suis en face d'un grand scientifique que je salue, le professeur Mouaka, et d'un juriste de renom que je salue aussi, que j'aime bien, Peter Kazadi. Le problème ici qui a créé le blocage est juridique. Et le problème est légal. C'est créé exclusivement par le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas fait respecter la procédure en invitant les parties prenantes à l'exercice de la mise en place de cette équipe de la CENI. Mais lorsque il invite les organisations de la société civile. La loi, en son article 10.3, dit explicitement ceci. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant une personnalité juridique, un ancrage sur le terrain, une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Et dans son article 12, et la loi donne le pouvoir au président de la CENI à inviter les parties prenantes, se référant ou conformément à l'article 10. Mais le président de la CENI a fait, je présume, Maître Peter pourrait nous le dire, nous expliquer, une sorte d'usurpation de pouvoir en désignant du côté de la société civile deux organisations qui sont des organisations majeures en la matière, mais elles ne sont pas les seules. Le président de l'Assemblée nationale devrait saisir le cadre de concertation de la société civile qui, en interne, devrait s'organiser pour proposer. Mais sur base de quel droit, de quel pouvoir, le président de la CENI a désigné deux organisations seulement. Mais nous passons par là. Alors, du côté des confessions religieuses, pourquoi le président de la CENI n'a-t-il pas, ne s'est-il pas pris de la même façon? Il a laissé une brèche qui a causé ces blocages. Puisque la loi dit, je viens de le dire ici, qu'il faut des organisations religieuses qui répondent à ces critères. Lorsqu'on va au vote, tous les Congolais ont le droit de voter leur président de la République, député et consorts. Mais la loi définit les conditions pour procéder, pour participer au vote.
Alors, Jeff Pambi,
la même Jeff Pambi, et le président de l'Assemblée nationale n'a pas aidé le processus. C'est pourquoi nous pensons qu'ils ont induit le président de la République en erreur et il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de gêne.
Vous l'avez dit.
La vie de la nation en dessous.
Alors, Jeff Pambi, Maître Peter Kazadia posait une question ici. Si votre candidat avait été désigné et nommé comme président de la CENI, est-ce que vous, protestants et catholiques, demanderiez que l'on puisse dépolitiser la CENI?
Je pense que ça fait faucher le débat. La question ici ne se pose pas en termes d'individus personnellement et implicitement. La question ici se pose en termes de procédure.
Merci.
La procédure ou le processus avait été biaisé.
Merci.
C'est ce qui a conduit à ces résultats.
Maître Peter Kazadi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Franck Bilal, depuis la province de la Tchopo dans la ville de Kisangani. Manifestation est un droit garanti par la Constitution de la République. Alors, je crois ici que si certains causent conditionnent les mêmes effets, le régime en place ne fait qu'appliquer les méthodes et procédures qui ont été léguées par l'ancien pouvoir. Du moins, si que les revendications brandies par les manifestants sont fondées, car le gouvernement actuel est en train de se méconduire en se basant plus sur leurs propres intérêts politiciens, en défaveur des intérêts de la population congolaise. La fameuse question des rames, des gratuités, des grèves et que sais-je encore, devra quand même donner un coup de pouce et interpeller les élites à servir leur pays sur base de l'éthique. Si jamais j'étais un président de la République, je vais plutôt prendre en compte tout ce que la population et l'opposition parlent, car conseiller se trouve ça et là au sein des institutions de la République ne donne pas de bons conseils à leurs chefs, mais plutôt de favoriser et de sauvegarder les postes et leurs intérêts. Le bien reste le bien. Même si personne ne le fait, dit-on.
Maître Peter Kazadi, brève réaction.
Oui, d'abord, je voudrais ici dire que le président de la République n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est fait ou ce qui s'est passé. Nous avons à la base, comme je l'ai dit, une loi. Et là, j'ai entendu Jeff en train de donner sa compréhension de l'article 10 de cette loi. Et je suis également content qu'ils aient saisi le Conseil d'État qui seul est habilité à interpréter une disposition de loi que les gens ne parviennent pas à comprendre. Mais seulement, je note qu'il s'agit là du juridisme. Il l'a dit, je suis juriste et je suis avocat de surcroît. Chaque fois, parfois qu'on n'a pas d'argument, on tombe dans le juridisme. Dire que parmi les confessions religieuses, il fallait choisir celles qui ont l'expérience avérée. Mais dans l'émission de l'Église catholique comme dans l'émission de l'ECC, nulle part il est écrit dans leur statut qu'ils ont entre autres cette expertise électorale. Ce sont des raccommodements qu'ils sont en train de rechercher de gauche à droite, comme aussi, d'autres églises peuvent aussi se raccommoder et trouver des experts en la matière. À ce que je sache, la loi parle des confessions religieuses et elles sont au nombre de 8 et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas Félix Tshisekedi qui a amené ça. Ces églises, notamment l'église du Christ au Congo, a toujours participé de tout le temps à travers ces mêmes mécanismes. Elle n'a jamais crié à la politisation ou la dépolitisation. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle se ressaisit et comprend que cette fois-ci, on a politisé. Moi, je pense que cette façon de faire n'est pas bonne pour une église. Même si on dit que ce sont des laïcs qui organisent, nous savons bien, j'ai travaillé avec ces confessions, notamment l'église catholique, je sais comment ça fonctionne. Ce sont toujours des leaders religieux qui sont derrière et qui devaient se limiter à prier pour le peuple de Dieu. Ils contribuent aujourd'hui à la division.
Répondez.
Il y a même au sein des églises.
Répondez maintenant à la préoccupation de ces auditeurs.
Donc, moi, je demande aux églises, je suis d'accord sur la transparence des élections.
tout ce qu'ils peuvent faire. Ils sont aujourd'hui en train de récolter de l'argent comme ils l'ont toujours fait. Ils s'organisent, puisque les élections, ce n'est pas une affaire d'un individu ou de deux qui sont à la tête de la CENI, soit-il. C'est une affaire de tout un peuple, de toute notre communauté. Chacun devrait veiller à ce que ces élections soient transparentes. Plutôt que de chercher à diviser les gens. J'ai entendu, il se glorifie d'avoir mobilisé suffisamment des populations. Mais est-ce qu'il a dénombré les dégâts qui ont eu ou parmi ceux qui ont marché, parmi ceux qui n'avaient pas marché, plusieurs biens ont été emportés, des gens tabassés, blessés. Est-ce qu'ils sont au courant de ça?
Plusieurs personnes tabassées, blessées. La police n'en a pas parlé, maître Peter Kazadi.
On va
passer. Professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Hubert Massomeko, à partir de Goma, au Nord Kivu. Je pense que cette marche est un exercice démocratique à encourager. Cependant, son évaluation est qu'il s'agit d'un coup d'épée dans l'eau. La vraie bataille qui pourrait payer se ferait à l'Assemblée nationale par les mécanismes du contrôle parlementaire, car la RIE ne paye toujours pas. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale est devenue une chambre à tousser du régime en place, avec comme conséquence lécher à bois, la caravane passe.
Professeur, brève réaction.
Oui, on ne le dira pas ainsi à démocratie. Je crois que parmi les mécanismes de revendication et même les mécanismes de contrôle, les manifestations publiques font partie des processus. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des représentants de la population. Et quand la population descend dans la rue, je pense que ceux qui dirigent sont appelés à être sensibles. Et dans le cas d'espèce, je ne pense pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, dès lors que ceux qui nous gouvernent eux-mêmes se revendiquent de ces églises.
Jeff Pambi, secrétaire national du ministère de la Protection, il approuve. Vous êtes également coordonnateur de la dynamique des forces sociales et politiques de la nation. Nous sommes dans la partie conclusion. C'est quoi la suite des événements?
Et la suite des événements, madame, c'est que nous attendons une réaction positive à la revendication ou aux revendications du peuple congolais qui s'est levé sur toute l'étendue de la République. Réaction venant de ceux qui nous gouvernent, ce sont nos autorités, ce n'est que d'eux que nous pouvons attendre cette réponse à nos revendications. Mais en même temps, je saisis cette opportunité pour saluer cette prise de conscience, cet éveil de conscience du peuple congolais que j'encourage dans ce sens-là afin que ceux qui nous dirigent ne puissent pas prendre ce pays en otage. Et je salue aussi le professionnalisme de la police sur toute l'étendue de la République. À Kinshasa comme dans les villes à l'intérieur, ils ont fait un grand travail que nous saluons et nous pensons que cela continuera ainsi. Les demandes des populations, si elles ne sont pas rencontrées, trouveront toujours des demandes, seront toujours adressées à qui de droit. Et nous pensons que les réponses y viendront. Si la réponse ne vient pas, évidemment, nous projetons déjà, pas maintenant, mais si nous pensons que les réponses ne viendront pas, nous allons projeter et intensifier les actions jusqu'à ce que ceux qui le doivent puissent nous entendre et puissent agir.
Maître Peter Kazadi, député provincial élu de Moamba dans la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il y a Franck qui nous écrit depuis Lemba, qui dit ceci: le président de la République doit prendre en compte ses revendications de la population pour prendre des bonnes décisions et sauvegarder son pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il dit. Comment vous lui répondez?
Oui, je partage totalement son point de vue. Le président de la République est là pour écouter la population et faire ce qu'il peut dans la mesure du possible. Depuis qu'il est là, il n'a fait que témoigner cet amour, cet attachement à la population. Il fait de son mieux pour que les conditions de vie puissent être améliorées. Et par rapport à la marche, j'ai dit que les amis doivent comprendre que nous avons intérêt à faire respecter les dispositions constitutionnelles qui veulent que les élections se tiennent dans les délais. Il ne faut pas s'associer l'église, donc les deux églises en question, avec tous nos frères laïcs comme nous. Nous ne devons pas nous associer à ceux qui ont entraîné ces pays dans l'abîme où ils se trouvent aujourd'hui, ou encore retarder l'organisation des élections, et qui va porter la responsabilité. Il est donc question d'indiquer la masse à la surveillance des élections, et je pense que si nous atteignons cet objectif-là, Ça nous épargnerait. On pourrait même laisser les ministres de l'Intérieur organiser des élections. Mais du moment où les citoyens sont vigilants, il n'y aura pas ce que nous sommes en train de craindre aujourd'hui.
Merci, Maître Peter Kazadi, professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette même université. Votre conclusion?
Oui, nous devons éviter la répétition des mauvaises pages de notre histoire. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs alors que l'on s'est battu pour que les choses changent. Je pense que des leaders politiques comme Étienne Tshisekedi se sont battus pour le changement. Ceux qui se sentent héritiers d'Étienne Tshisekedi doivent se battre pour que les choses changent. Cela aussi est valable de la désignation parfois des animateurs d'un organe comme la CENI. Et je pense que cela en va aussi pour notre moralité publique.
Merci professeur Arsène Mouaka. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba, sous la supervision de Martin Sebujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Paul Badianyama. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.